Bonjour à tous. J'espère que vous profitez tous du temps qu'il fait ici et que tous les autres pays du monde sont probablement jaloux de ce sermon sur la neige que nous avons ici au siège. Il fait beau, mais il fait froid. Je n'ai pas l'habitude de commencer un sermon en vous donnant son titre, mais je vais le faire aujourd'hui parce qu'il encadre vraiment tout le sujet, au fur et à mesure que nous le développons au cours de ce message. Ce qui donnera plus de sens à ce dont je parlais et à la raison pour laquelle je le fais. Le titre du sermon sera De la naissance au baptême. Vous pouvez penser à beaucoup de choses. Vous pouvez immédiatement tirer la conclusion de ce dont je ne parlerai pas quand je parle de ce sujet. Permettez-moi de vous poser quelques questions à ce sujet. Êtes-vous part? Certains d'entre vous dans la salle peuvent lever la main et répondre par l'affirmative. Êtes-vous responsable d'enfants? Vous vous dites peut-être, c'est la même question, n'est-ce pas? Si je suis parent, je suis responsable des enfants. Êtes-vous responsable des enfants même s'ils ne sont pas les vôtres? Et s'ils ne sont pas les vôtres? S'ils ne sont pas vos enfants? Pas ceux de votre chair que vous avez élevée, que vous avez construit, dont le sang coule dans vos gènes. Êtes-vous responsable d'eux? Allez au Proverbe, un verset courant dont vous pouvez parler. Proverbe chapitre 22. Livre des Proverbes chapitre 22. Permettez-moi d'y arriver. Verset 6 de Proverbe 22. Formez un enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ce verset ne dit pas, formez votre enfant. Il dit, formez un enfant. Naturellement, les parents seront les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants, mais Dieu a voulu que l'article ne soit pas défini. Un enfant, pas votre, pas un possessif. Je pourrais me servir de mon propre exemple. Quand j'étais jeune, ma mère était dans l'église et suivait le mode de vie de Dieu et de mon père. Je ne voulais rien savoir. Je ne trouvais pas cela intéressant. Je ne croyais pas en Dieu. Il n'était tout simplement pas. Ma position, comme je l'ai déjà dit, était d'être agnostique au mieux et plus probablement athée lorsque j'étais plus jeune. Cela n'a pas empêché mon père et ma mère de me former, de m'enseigner les principes de la Bible, même s'ils l'ont fait sournoisement et en cachette, de sorte que je n'ai pas vraiment compris qu'il s'agissait de la Bible. Puis, à un certain moment, lorsque Dieu a dit que j'étais prêt à être appelé, cette formation est revenue. Quand j'étais vieux, vers 25 ans, il ne s'en éloignera pas. J'y suis revenu. Je suis revenu à cette compréhension. Ils m'ont formé. Beaucoup d'entre vous pourraient peut-être dire la même chose. Vous avez été formé dès votre plus jeune âge, pendant votre adolescence ou votre vingtaine, ou à un moment de votre vie, ceux qui vous entourent ont contribué à votre développement. Former est un drôle de mot. Il donne l'impression qu'il s'agit d'un cheval que l'on essaie de dresser ou d'un chien qui doit apprendre à s'asseoir. Or, il s'agit de développer et de construire. Alors que nous poursuivons cette introduction, qui s'occupe de la formation, vous connaissez en partie la réponse à cette question. Je pense qu'à la fin du sermon, vous vous rendrez compte que les parents ne sont pas les seuls à s'en charger. Ils sont les premiers à s'occuper de leurs propres enfants, mais les jeunes de tous âges, de la naissance au baptême, nous parlons des bébés jusqu'aux personnes qui atteignaient cet âge à 19, 20, 21 ans. Les jeunes bénéficient d'exemples, d'instructions et de soutien de la part d'autres personnes que leurs parents. Je suis sûr que chaque jeune dans cette salle a déjà demandé conseil à quelqu'un qui n'était pas un parent. Parce que je sais déjà ce que papa et maman vont dire. Entourer ces jeunes d'autres personnes qui comprennent ce mode de vie fait une grande différence, et ce n'est pas seulement une responsabilité parentale ou un devoir parental. Ce ne sont pas seulement des hommes, des femmes, des frères et des sœurs en Christ qui s'occupent des enfants, si vous voulez. Je dirais parfois « jeunes ». Parfois, je dirais « les enfants ». Si vous avez 18 ans et que vous rechignez à l'idée d'être appelé un enfant, dans votre esprit, entendez « jeunesse », parce que vous êtes encore jeune. Nous sommes tous responsables, car la prise en charge et le développement des jeunes est une responsabilité chrétienne. Quelle est la responsabilité de l'Église de Dieu, des parents et d'autres personnes dans le développement des jeunes? Souvent, la structure repose sur trois piliers. De bien des façons, vous pouvez vous représenter ces trois pieds, vous en avez déjà entendu parler. Le premier pied, c'est ce que fait l'Église. Nous y reviendrons et nous verrons comment vous pouvez y contribuer. Un autre pied, ce sont les parents et le troisième pied, ce sont tous les autres. Si vous voulez vous faire une idée de l'importance des parents, sachez qu'ils représentent une jambe à eux seuls. Si vous êtes un parent célibataire, il est plus difficile de maintenir ce tableau, mais c'est le premier. Le premier que nous examinerons concerne le rôle de l'Église. Allons au chapitre 28 d'Ésaïe. Reprenons le livre d'Ésaïe, chapitre 28. Nous commencerons au verset 9. Le verset 9 se lit comme suit, « Il enseignera la science à ceux qui la reçoivent, et il fera comprendre la doctrine à ceux qui sont sevrés. Ceux qui sont sevrés du lait et tirés du sein, car les préceptes doivent être des préceptes. Précepte sur précepte, ligne sur ligne, ici un peu et là un peu. En tant que chrétiens, nous recevons une instruction. Lorsque nous sommes appelés pour la première fois, il peut s'agir du sujet le plus simple. Vous pouvez apprendre et cela peut être une chose époustouflante lorsque vous êtes appelé pour la première fois. Si vous êtes dans l'Église depuis un certain temps, vous pouvez penser à ce que j'aime appeler la doctrine de la bascule, qui dans votre esprit était comme « Oh là là, c'est tellement différent de tout ce que je n'ai jamais entendu auparavant. C'est incroyable. Cela fait basculer votre esprit. C'est la façon dont Dieu l'a ouvert. Cela aurait pu être quelque chose d'aussi simple que « le port n'est pas propre ». Si vous êtes dans l'Église depuis un certain temps, vous regardez en arrière et vous souriez presque à votre ancien moi en pensant à quel point c'est mignon, que c'était une grande affaire dans votre vie et que maintenant vous n'y pensez même plus. Comment avez-vous compris cela? Vous avez pris de la littérature, n'est-ce pas? Vous avez ouvert votre Bible. Vous avez étudié le livret ou l'article avec votre Bible à côté de vous, en recherchant les Écritures, en vous les faisant expliquer d'une manière que vous n'aviez jamais eue auparavant. Il n'y a pas que de la littérature pour adultes. Nous avons des choses pour les enfants. Cela commence très, très jeune, et c'est intentionnel. Lorsque M. Peck a conçu ces programmes et que certains d'entre eux se rapportent au monde entier, il a participé à la conception de ces programmes dans le monde entier. Il a l'habitude de savoir comment développer les jeunes. Lorsque nous avons réécrit, il y a de nombreuses années, je me souviens avoir participé à ce processus, en réécrivant les leçons bibliques pour enfants à partir des anciennes leçons de Yes. Elles étaient conçues pour faire commencer les enfants très, très jeunes. L'école maternelle. Mon petit dernier est en première année. Il a suivi une année de CBL. Vous pouvez voir comment le programme construit des couches de connaissances, des couches de vérité, pour aider ses enfants. Ce sont vraiment de petits enfants de 6, 7 ou 8 ans qui, au fur et à mesure qu'ils avancent dans le programme, grandissent. Puis, lorsqu'ils commencent à mûrir, et nous avons commencé cela avant même les leçons bibliques pour enfants, c'était la série sur l'histoire de la Bible. Je me souviens qu'avant qu'Étan ne sache lire et parler, nous lui faisions la lecture très, très jeune et nous lisions l'histoire de la Bible. Il regardait et écoutait, il lisait l'histoire et écoutait les images. Heureusement, nous avons aussi refait celle-là parce que, si vous avez vu les anciennes leçons de l'histoire de la Bible, elles datent d'une autre époque et certaines de ces images de l'histoire de la Bible sont terrifiantes. Nous avons maintenant des versions beaucoup plus conviviales, mais certaines de ces photos de Wolverton sont pour le moins intéressantes, mais l'histoire est la même. Il s'agit de comprendre, de parcourir la Bible, de l'expliquer de manière à ce qu'un jeune esprit puisse l'assimiler. Ils sont en train de se construire et de se développer. C'est la responsabilité de l'Église de Dieu. Juste comme lorsque vous avez été appelé ou que j'ai été appelé, il y avait de la littérature pour m'aider à comprendre, pour m'aider à apprendre ce qui était et ce qu'est la vérité. Un jeune esprit n'est qu'une coquille vide qui attend d'être remplie, et les programmes sont là pour cela. Puis ils grandissent un peu, n'est-ce pas ? Ils continuent et passent de l'histoire de la Bible aux leçons bibliques pour enfants, puis, à un certain moment, ils reprennent avec le magazine Embassy of the Youth. Guider, diriger, enseigner, donner des connaissances pratiques, utiles, spirituelles et physiques. Ces programmes, ces magazines, ces publications ne sont pas le fruit du hasard. Il y a une équipe qui s'occupe de tout cela. Si vous voyez le dernier Embassy of the Youth, c'est le numéro sur les camps, avec tout le travail que cela implique. Au fur et à mesure, nous avons les études bibliques pour les jeunes. Des sujets spécifiques conçus pour aider les jeunes, les adolescents dans ce cas, peut-être même jusqu'au début de la vingtaine. Les jeunes, sur des connaissances spirituelles utiles qui leur sont spécifiquement destinées. Encore une fois, je parle de ce que l'Église de Dieu fait pour les jeunes. Croyez-moi, nous allons avoir beaucoup de plaisir à parler de ce que vous pouvez faire vous aussi. Nous allons avoir beaucoup de plaisir à parler de ce que vous pouvez faire vous aussi. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un tabouret à trois pieds. Nous tous ici, quel que soit notre rang ou notre rôle au siège, nous nous soucions des jeunes de Dieu et nous voulons les aider. C'est ainsi que cela fonctionne. Nous construisons des esprits. Comme nous aidons les gens du monde entier à trouver la vérité. C'est ainsi que nous régnerons dans le royaume de Dieu et que nous enseignerons au monde entier des milliards de personnes. Cela commence par apprendre à enseigner à ceux qui sont de la génération suivante. Puis, en fin de compte. Avant d'en arriver là, passons au chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux 5, verset 12. Hébreux 5, le verset 12 se lit comme suit. En effet, lorsque vous devez enseigner, vous avez besoin que quelqu'un vous enseigne à nouveau ce qui constitue les premiers principes des oracles. Vous avez besoin qu'on vous enseigne à nouveau les premiers principes des oracles de Dieu. Et vous êtes devenus comme ceux qui ont besoin de lait. Pas de viande forte. Parfois, il est bon de revenir au lait, même si l'on peut supporter la viande forte. Si vous êtes jeune, les bébés, si vous voulez, ont besoin de lait. Car quiconque se sert de lait n'est pas habile dans la parole de la justice, car c'est un enfant. Car c'est un enfant, ou un bébé, ou ils sont jeunes. Il n'y a rien de mal à cela, sauf si vous êtes un adulte et que vous devez revenir au lait parce que vous ne pouvez pas discerner la justice. Si vous êtes jeune, vous avez une excuse. Tu peux boire ce lait. Mais les viandes fortes appartiennent à ceux qui ont atteint l'âge mûr et qui, par l'usage, ont les sens exercés pour discerner le bien et le mal. L'usage les aide à discerner le bien et le mal. Si vous êtes adolescent ou plus jeune et que vous faites des erreurs, acceptez de faire des erreurs. Nous essayons d'enseigner à notre fils qu'il peut se tromper, mais qu'il doit être honnête. On peut faire une erreur, mais il faut l'avouer. Les répercussions d'un manque de sincérité vont bien au-delà des répercussions d'une erreur commise ou d'une désobéissance. Parce que la vérité est le fondement. C'est la base de tout ce que nous faisons. Allons au 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, et commençons au verset 14. 2 Timothée, chapitre 3, 14. Mais toi, continue à pratiquer les choses que tu as apprises et que tu as la certitude d'avoir apprises de qui tu les as apprises, puisque tu les as connues dès ton enfance. Dès ton enfance, tu as connu les saintes Écritures. Ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas nouveau, frère. Ce n'est pas différent de ce qui s'est passé à l'époque de Timothée. Dès votre enfance, vous connaissez les saintes Écritures, qui peuvent vous rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toutes les Écritures ont été inspirées par Dieu et sont utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, etc. La mère de Timothée, sa grand-mère et, vous pouvez l'imaginer, les membres de cette congrégation ont formé Timothée pour qu'il devienne quoi ? Devenir évangéliste. Parce que cela l'a aidé à apprendre le salut, la justice. C'est pourquoi nous avons des programmes aujourd'hui. Nous ne donnons pas de viande à des enfants de 6 ans. Nous ne disons pas, voilà, jeune homme CBL, leçon 1, volume 1, classe, jardin d'enfants. Nous allons t'enseigner les éléments les plus fins du livre de l'Apocalypse. Le petit garçon lève les yeux et dit, l'Apocalypse ? Non. Nous commençons par des histoires petites et simples, qui se construisent, parce qu'elles commencent avec du lait. Encore une fois, l'histoire de la Bible, les leçons bibliques pour les enfants, le magazine MBS de Youth, les études bibliques pour les jeunes, et puis cela continue à se construire jusqu'à quelque chose qui est vraiment le point culminant de ce que nous faisons pour les jeunes, le Camp MBS de Youth. Nous avons récemment entendu une étude biblique du docteur Villuyen, qui parlait de cette année, des objectifs du camp et de ce qu'il signifie, mais il se peut qu'en tant qu'adulte, vous ne considériez pas le camp de la même manière que les enfants qui y vont. Revenons au Deutéronome 16. Je vais faire un parallèle. C'est un clin d'œil, mais ce n'est pas le cas. Deutéronome 16. Écoutez ce verset, je ne prends pas d'offrande, mais tournez ici. Deutéronome 16, verset 16. Nous allons le lire dans un contexte différent. Deutéronome 16, 16. Trois fois par an, tous vos mâles se présenteront devant l'Éternel, dans le lieu qu'il choisira. La fée des pains sans levain, la fée des semaines, le tabernacle, ils ne se présenteront pas devant le Seigneur vide. Ils doivent, nous devons, nous présenter devant Dieu trois fois par an, trois saisons pour les jours saints, tous les jours saints, bien sûr, mais au cours de ces trois saisons, vous pouvez penser à la fête des tabernacles, qui est la plus facile à imaginer. Il nous est ordonné de nous rendre à l'endroit où Dieu a placé son nom. En tant qu'adulte, c'est le point culminant de notre année. Les jeunes aussi, mais le CJA, comme le pèlerinage, si vous voulez, que nous faisons pour aller à la fête chaque année, c'est ce que c'est pour eux. Si vous leur parlez une fois qu'ils ont fait l'expérience du camp, l'anticipation, l'excitation, la joie, la nervosité, toute la gamme d'émotions qu'ils peuvent ressentir, c'est l'excitation pour ce voyage au camp. Ils s'éloignent du monde. Ils sortent des sentiers battus, car il n'est pas facile d'être jeune à notre époque. On est entouré de distractions, de technologies, d'interactions, de médias sociaux, de tant de choses. On a de l'espoir quand on voit les écoles se débarrasser des téléphones ou d'autres choses. Si le temps passe et que nous devons avoir des jeunes et que j'ai un enfant qui grandit, je me dis, oh là là, À quoi ressemblerait le monde de ce côté-ci du pays ou de ce côté-ci du royaume s'il atteignait l'âge de 10, 12 ou 15 ans? Le camp est l'occasion de s'éloigner de ces choses. C'est l'occasion d'éliminer les distractions, les connaissances ou ceux qui ne sont pas des connaissances et les enfants de l'école qui causent des problèmes, les distractions. La lutte pour faire ce qui est juste élimine la pression exercée par les pairs pour faire ce qui n'est pas juste. Le camp est une période structurée qui permet aux jeunes de se rencontrer et d'apprendre la voie de Dieu d'une manière qui ne rend pas ce mode de vie onéreux. Lorsque nous parlons aux parents et aux autres, nous devrions être en mesure de montrer la joie de vivre ce mode de vie et c'est ce que nous faisons avec le camp. Il ne s'agit pas de s'asseoir et d'étudier la Bible pendant 2 semaines et c'est tout ce que vous faites. Non, il s'agit de rendre le mode de vie de Dieu amusant, car il doit l'être. C'est une vie abondante. Retournez à Daniel 1. Daniel chapitre 1. Le camp est énorme. De toutes les choses que nous faisons pour les jeunes, c'est la plus coûteuse. C'est ce qui demande le plus de travail. Tout le reste, même les magazines, je dirais facilement qu'ils ne coûtent pas ou n'exigent pas autant de travail que le camp de jeûne. Daniel chapitre 1, verset 8. Le 8e verset dit, « Mais Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller. » C'est le récit où il voulait l'ébranler et où Daniel et ses amis ont dit, « Non, nous ne mangerons pas de la viande du roi. » Il ne voulut pas se souiller avec une portion des mets du roi, ni avec le vin qu'il buvait. C'est pourquoi il demanda au chef des eunuques de ne pas se souiller. Daniel a dit dans son esprit de résister aux choses difficiles et il était jeune. Il était jeune et ses amis ont été placés dans un environnement loin de chez eux, dans un pays étranger, et ils ont dû continuer à vivre selon le mode de vie de Dieu. C'est ce qu'est le CJA. Lorsque vous vieillirez, ou même lorsque vous serez adolescent, et que l'on vous posera des questions sur Noël ou les anniversaires, ou quoi que ce soit d'autre, vous saurez que vous avez la connaissance de la compréhension. Il s'agit d'une question de connaissance et de compréhension. Les jeunes d'ici l'obtiennent probablement plus que partout ailleurs dans le monde parce que nous sommes connus. Certaines des histoires que j'entends de la part des adolescents au lycée, des questions qu'on leur pose sur ce que nous faisons ou ce que nous croyons. On ne peut pas imaginer que les gens puissent inventer tout cela, mais je suppose qu'on est créatif quand on est adolescent. Des têtes de chèvres dans l'Ouest au sacrifice, en passant par tant d'autres choses. Il faut résister à tout cela, et c'est le but du camp, vous apprendre à le faire. Comment répondre, comment résister, comment avoir la force spirituelle et développer la colonne vertébrale pour pouvoir dire, non, je vis ce mode de vie non pas parce que mes parents le font, mais je vis ce mode de vie parce que c'est le bon mode de vie. Cela ne s'apprend pas sans formation. Comme tout le monde, y compris les adultes, on ne devient pas super chrétien du jour au lendemain. Non. Il faut du temps. Il faut apprendre, il faut se former. Il faut du lait qui se transforme en viande et qui vous aidera à grandir. Passons à Exode 24. Exode, chapitre 24. Quelques versets avant de changer de vitesse. Exode 24, un verset. Parce que c'est aussi ce que fait Ag dans sa formation. C'est le but de cette formation. En fin de compte, ce à quoi elle peut conduire. Exode 24, verset 13. Le verset 13 de l'Exode 24 dit, « Moïse se leva, Josué, son ministre, et Moïse montèrent sur la montagne de Dieu. » Il y a ce Josué qui est encadré, enseigné, formé, développé par cet homme d'expérience. On pourrait dire qu'il est le ministre, il était ministre, donc l'assistant, pas un ministre, mais un ministre. Josué était de retour ici, aidant Moïse à faire ceci, aidant Moïse à faire cela. Il observait Moïse, Ils recevaient l'enseignement de Moïse. Comme tous les jeunes. Vous allez au camp et vous voyez le ministère, vous voyez le personnel, vous voyez l'exemple à l'arrière-plan. À un moment donné, si vous êtes un jeune, vous êtes probablement passé par là. Vous êtes passé par là. Parce que nous existons depuis assez longtemps pour que les gens grandissent dans les camps, passent leur diplôme pour devenir membre du personnel, puis pour devenir ministre sur un vrai pasteur, pas seulement un ministre. C'est l'objectif du camp, former des jeunes pour qu'ils deviennent des leaders. Parce que nous sommes tous formés pour devenir des leaders dans le royaume de Dieu. Peu importe de quel côté de la ligne nous parlons. Tout ce qui concerne le christianisme, quel que soit le côté de la ligne du royaume de Dieu, passe du côté suivant. Si vous avez 18 ans et que vous n'êtes pas encore baptisé, que le royaume arrive demain et que vous êtes dans le royaume de Dieu, toute cette formation s'applique encore. Si vous avez l'âge d'être baptisé et que le royaume arrive, toute cette formation s'applique encore. De la naissance au baptême, c'est ce dont nous parlons ici, mais en fin de compte, tout ce que nous formons et développons pour faire et pour tout ce qui va au-delà. C'est ce que fait l'Église de Dieu. Nous fournissons les produits, les programmes, les magazines, la littérature pour aider les jeunes à réussir. Nous ferons notre part, mais nous ne sommes qu'un pied de ce tabouret. Regardons l'autre pied. Allez au chapitre 5 de Matthieu. Parents, savez-vous ce que vous pouvez faire de mieux pour vos jeunes, vos enfants? Soyez un exemple. Rien n'illumine les yeux d'un enfant, et pas dans le bon sens, comme l'odeur de l'hypocrisie. Les enfants la sentent à mille lieues à la ronde. Les adultes, souvent pareil, mais les jeunes peuvent très facilement regarder quelqu'un et voir qu'il ne fait pas ce qu'il dit. La façon de leur prouver que tout cela n'est qu'une blague. Parce que c'est ce que cela va faire. Si vous ne vivez pas de cette façon, si vous ne montrez pas à cette personne que vous essayez d'élever, que vous croyez et vivez de cette manière, elle considérera l'Église comme une plaisanterie parce que c'est ce que vous faites. Parce que vous ne voyez pas Dieu comme l'exemple de la personne, de l'être qui est derrière tout ce que vous faites. Ils verront l'hypocrisie et ne prendront pas le mode de vie au sérieux. Pourquoi le feraient-ils si celui qu'ils admirent le plus ne le fait pas non plus? La meilleure façon d'enseigner, et je peux faire la même chose, cela s'applique à nous tous, c'est de montrer l'exemple. Montrer l'exemple. Matthieu, chapitre 5, verset 14. Matthieu, chapitre 5, verset 15. Parce que c'est ce que nous sommes. Vous êtes la lumière du monde. Mère, Père, et franchement, nous sommes tous la lumière du monde. Une ville située sur une colline qui ne peut être cachée. Notre comportement, notre conduite, tout ce que nous faisons ne peut être caché. Si c'est bien, c'est très bien. Si c'est mauvais, c'est aussi l'exemple que nous donnons. Les hommes non plus, verset 15. On allume une bougie et on la met sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille donc devant les hommes, devant les jeunes, devant les enfants, devant les petits-enfants, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les jeunes imiteront les lumières qui les entourent. Lorsque vous ne savez pas qui vous êtes et que vous êtes encore en train de construire votre personnalité, de grandir et de vous développer, vous avez tendance à aimer les choses que vos parents aiment. Je peux changer la préférence de mon enfant pour les voitures avec un simple commentaire. Je l'ai déjà remarqué. Il adore les voitures et les moteurs et nous allons sur la route. Oh, c'est une Honda Civic, papa, de 19. Les modèles et. Il est obsédé par cela. C'est comme si c'était des données. Je peux trouver des données. Je connais les voitures. Si je dis quelque chose du genre, je ne suis pas vraiment fan de cette voiture. J'entendrai généralement plus tard, à un moment donné, papa, j'ai réfléchi, je ne suis pas vraiment fan de X. Ce sera exactement la même voiture que celle que j'ai évoquée. Les jeunes imitent cet exemple parce qu'ils l'absorbent. Nous devons être ceux qui absorbent les bonnes choses. Une Honda Civic, c'est très bien si vous en avez une. La deuxième voiture que j'ai possédée en était une. Je ne préférerais pas en avoir une maintenant. J'ai trop de choses à mettre dans le coffre. Vous avez besoin d'une voiture à haillons. Allez au chapitre 20 des Proverbes. Si vous voulez avoir une bonne conversation avec quelqu'un, allez voir mon fils et commencez à lui poser des questions sur les voitures. Quelles sont les voitures qu'il aime et pourquoi il les aime? Proverbes, chapitre 20, verset 7. Septième verset du chapitre 20 des Proverbes. L'homme juste marche dans son intégrité. Que se passe-t-il à cause de cela? Ses enfants sont bénis après lui. Un homme juste marche avec intégrité. Il donne le bon exemple et ses enfants sont bénis. Pourquoi? Parce qu'ils font la même chose. Nous commettons tous des erreurs, mais c'est le modèle de notre vie qui donne l'exemple. Parents, soyez ce modèle. Montrez le mode de vie de Dieu. Faites-en une joie. Ne parlez pas du mode de vie de Dieu, ne le vivez pas et ne faites rien qui puisse le faire passer pour un fardeau. Oh, nous devons aller au service. Je préférerais rester à la maison. Non, ne faites pas cela. Vous pouvez être fatigué. Vous pouvez traverser une épreuve ou une difficulté. Soyez ouvert. Il n'y a pas que du soleil et des roses. La vie ne devrait pas l'être. Les enfants devraient apprendre que nous avons des revers, des épreuves, des tests, et que nous devons être forts pour les surmonter, mais en les formulant de manière à ce qu'ils puissent les comprendre. Donnez-leur un cadre, oh, oui, nous traversons quelque chose ou cette difficulté, Dieu la met à l'épreuve pour que nous puissions faire partie de sa famille. Aidez-les à toujours avoir une vue d'ensemble. S'ils se grattent le genou, vous leur direz, lève-toi. Tu n'es pas si mal que cela. Tu dois être fort. Nous parlerons de la façon de surmonter un problème en grognant. Parfois, on se gratte le genou, cela saigne et cela fait mal. Au lieu de pleurer, je dirais, grogne. D'accord, nous sommes des durs. Il faut apprendre aux enfants à être durs, forts. Faites du christianisme quelque chose d'excitant, pas un fardeau. Deutéronome 6. Retournez au Deutéronome. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Nous commencerons au verset 4 de Deutéronome 6. Verset 4. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur, et tu les enseigneras avec soin à tes enfants. On ne peut pas enseigner à ses enfants des choses que l'on n'a pas dans le cœur, que l'on ne connaît pas, que l'on ne comprend pas les doctrines, les vérités de Dieu. Si nous ne les comprenons pas, comment pouvons-nous appliquer ce verset et les enseigner diligemment à nos enfants? Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison avec tes enfants, quand tu marcheras sur le chemin avec tes enfants, quand tu te coucheras, quand tu endormiras le petit, tu peux l'imaginer dans ton esprit, d'autres façons de l'appliquer, et quand tu te lèveras. Nous devrions enseigner en permanence. Le livret sur l'éducation des enfants parle des trois aspects fondamentaux les plus importants du rôle de parent que nous devons jouer. Enseigner, enseigner, enseigner. Le nombre de fois où j'ai pensé à cela dans ma tête, encore et encore, depuis que j'ai un enfant, c'est qu'on est toujours en train d'enseigner. Ils apprennent toujours. Ils sont toujours en train de se développer. Enseigner, enseigner, enseigner. Cela signifie que nous devons faire preuve de diligence pour le savoir. C'est une grande responsabilité que d'être parent. Avec l'aide de Dieu et de ceux qui vous entourent, vous construisez un être de Dieu potentiel. N'oubliez pas que nous formons l'enfant par ce qu'il devra, à un moment donné, choisir la voie qu'il suivra. Vous n'êtes pas seul. Rappelez-vous, j'ai dit qu'il y avait un autre pied de la table qui était nécessaire, et c'est nécessaire, pas seulement pour les parents, c'est nécessaire pour nous tous. Chaque jeune, dans chaque congrégation, dans chaque partie du monde, a plus de soutien que sont nous ses parents. Ils ont tous les autres membres de la congrégation qui les aideront. Bien sûr, les parents sont les premiers à s'occuper des enfants. Ils sont les parents des enfants. Ce sont eux qui sont responsables, mais nous devrions tous être en mesure de les aider même si cela exige que vous aidiez simplement en vous asseyant avec l'enfant au dîner ou en lui expliquant quelque chose que vous avez fait et que vous le laissiez chercher un conseil. C'est un dicton terrible en raison de son auteur, mais je l'utilise quand même. Il faut un village pour que nous puissions tous travailler ensemble, pour que nous puissions soutenir les parents dans la construction de ces futurs êtres de Dieu. Allez au chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous ne dirons pas qu'il faut un village. Disons que nous avons la mentalité d'un village, c'est un peu mieux. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12, 12. En effet, de même que le corps est un et qu'il a plusieurs membres, tous les membres étant d'un seul corps, étant plusieurs, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est par un seul esprit, une seule unité, que nous avons été baptisés pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou païens, esclaves ou libres, et que nous avons été abreuvés de ce seul esprit. Nous travaillons tous ensemble. Car le corps n'est pas composé d'un seul membre, mais de plusieurs. Le corps du Christ travaille ensemble à l'édification et au développement de ceux qui nous entourent. Nous le faisons avec des adultes. Nous pensons que nous nous exhortons les uns les autres, que nous nous aidons les uns les autres, que nous nous encourageons les uns les autres, etc. Vous aidez vos frères et sœurs en Christ. Vous êtes également responsables des plus petits. Le christianisme est le contraire d'un programme de développement personnel. Il s'agit de se concentrer sur chaque autre personne, puis de se construire soi-même. Ne vous mêlez pas de leurs affaires, mais vous vous souciez des autres. C'est à cela que cela revient. L'attention et le souci de ceux qui vous entourent. Vous voulez voir telle ou telle personne dans le royaume de Dieu à vos côtés. Combien plus lorsqu'ils ont 3 ans, 13 ans ou 17 ans? Combien plus lorsque les parents ont peut-être 2 ou 3 enfants et qu'ils sont entrés dans l'église sans y avoir été élevés et qu'ils essaient d'élever les normes et que vous êtes quelqu'un qui a vécu ce mode de vie pendant un certain temps? Dans quelle mesure est-ce à vous, en tant qu'aîné, d'aider, de montrer, de démontrer et de soutenir ces personnes? Nous sommes tous responsables et nous sommes tous des exemples. Rappelez-vous que j'ai dit que les parents n'étaient pas les seuls concernés. Si vous êtes un exemple dans une congrégation, ils ne vont pas voir ce qui se passe derrière les portes closes comme vous le feriez avec un membre de votre famille. Si l'un d'entre nous ne sert pas, n'essaie pas d'aider les autres, Ne fais pas tout ce qu'il ferait dans une congrégation pour être un exemple, ou si vous discutez lors d'un dîner ou si vous parlez de ce qui s'est passé au cours de la semaine, c'est un autre moment où vous êtes un exemple pour ceux qui sont assis en face de vous. C'est un autre moment où vous êtes un exemple pour ceux qui sont assis en face de vous. Jeunes ou vieux. Surtout les jeunes parce qu'ils regardent et se disent « Je veux être comme X ». Tout le monde a un modèle ou quelqu'un qu'il admire. C'est toujours le cas quand on est jeune, surtout. Il peut s'agir d'un sportif ou de n'importe qui d'autre. L'oncle, les parents, cela peut aussi être quelqu'un dans leur congrégation qui a vécu une vie et ils pensent « Oh là là, j'aimerais être comme lui ou elle ». Allez, Actes 2. Titus chapitre 2, verset 7. Titus 2, verset 7. En tout cas, en vous montrant comme un modèle de bonnes œuvres et de doctrine irréprochable, de gravité, de sincérité, de paroles saines, vous ne pourrez pas être condamné. Encore une fois, disons l'exemple que nous donnons à tous. Qu'il soit du contraire peut être une part de honte. Les gens n'aiment pas ceux qui font le bien quand ils ne font pas le bien. Pourquoi? Parce que cela montre qu'ils ne leur font pas de bien, à eux et à ceux qui les entourent. Si vous vous êtes déjà trouvé dans une situation où vous essayez d'être gentil et chrétien, vous essayez de faire la paix avec quelqu'un et quelqu'un est l'antagoniste et il y a un groupe, vous passez pour le gentil et il passe pour le méchant. Ils n'aiment pas cela. En fin de compte, il pourrait être un peu honteux. Ce n'est pas le cas ici dans Tite. Le verset 8 continue afin qu'ils condamnent au contraire, qu'ils aient honte, n'ayant rien de mauvais à dire de vous. Comme eux, je ne trouve rien de pourri en eux. Pensez à Daniel. Je ne trouve rien de mauvais chez Daniel, sauf ce qui a trait à son Dieu. À cause de cet exemple, retournons au chapitre 31 du Deutéronome. Sautons un peu au-dessus de la Bible. Deutéronome, chapitre 31, verset 11. Onzième verset du chapitre 31 du Deutéronome. Lorsque tout Israël sera venu se présenter devant le Seigneur, ton Dieu, au lieu qu'il choisira, tu liras la loi devant tout Israël, en l'écoutant. Rassemble le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui est à ta porte, afin qu'ils entendent, qu'ils apprennent à craindre le Seigneur, ton Dieu, et qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de la loi. Et que leurs enfants, qui n'ont rien connu plus vous êtes jeunes, vous ne savez pas si vous êtes un étranger, vous ne le savez pas, qui n'ont rien connu, entendent. Ceux qui n'ont rien connu entendent, et ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, et à vivre longtemps dans le pays, que vous passiez ou non le Jourdain pour en prendre possession. Plus nous étudions, plus nous creusons dans la parole de Dieu, plus nous parlons du mode de vie de Dieu, parents et autres, avec les jeunes, pour le rendre réel, pratique. C'est l'une des choses que nous essayons de faire avec les études bibliques. Nous disons aux hommes qui parlent de rendre les choses pratiques pour les jeunes. Il ne doit pas s'agir d'un sujet spirituel lourd. Ce ne doit pas être un problème, car ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas de leçons bibliques pour enfants. Il s'agit d'adolescents qui se préparent et se dirigent vers le baptême, mais cela devrait être applicable pour être pratique dans leur vie, dans ce qu'ils traversent. Prendre la loi de Dieu et la rendre réelle de manière à ce qu'ils puissent l'appliquer. Ils l'apprennent, la vivent et apprennent à craindre Dieu parce qu'en fin de compte, la crainte et le respect de Dieu viennent du fait qu'on le voit dans sa vie, de ce qu'il fait, de la manière dont il change les choses, de la manière dont il nous sauve, nous protège, nous guide et nous dirige. Nous l'obtenons en l'apprenant en étant cet exemple. Vous pouvez voir que toute la congrégation a reçu l'ordre d'enseigner dans ce récit. Tout le monde. Enseignez-le à tout le monde. Tout le monde n'est pas ministre. Tout le monde ne se tient pas derrière le lutrin le jour du sabbat pour faire des sermons ou des sermonnettes. Nous passons beaucoup de temps ensemble. Revenons à Tite, au chapitre 2 de Tite. Vous n'avez peut-être pas pensé. Si vous n'avez pas d'enfants, ou si vos enfants sont grands, ou s'ils ont quitté la maison, ou s'ils ne sont pas dans l'église, vous pouvez, dans votre esprit, penser, « Oh, j'ai fait mon éducation. » Non, désolé. Comme c'est souvent le cas dans le christianisme, vous ne pouvez pas vous contenter d'arrêter un élément, et il s'agit d'un élément important. Tite, chapitre 2, verset 3. Plus vous êtes âgé, si vous avez des enfants adultes, plus vous êtes fatigué. Vous êtes dans la cinquantaine, la soixantaine, la septantaine ou plus. Verset 3. Les femmes âgées de même. Plus âgées, plus mûres, vieillies. N'est-ce pas plus agréable à entendre? Si vous dites à quelqu'un, « Oh là là, vous êtes une vieille femme », ce ne sera pas bien perçu. Disons aussi un vieil homme, vous n'allez pas dire, « Eh bien, vous êtes une femme très âgée. » D'accord, cela ne marcherait pas non plus, alors ne faites ni l'un ni l'autre, mais laissons la Bible être la Bible ici. Je parlais des hommes tout à l'heure, nous n'avons pas besoin de lire les deux, mais vous verrez avec ceci, afin qu'elles aient une conduite qui devienne sainte. L'exemple. Pas de faux accusateurs, pas d'excès de vin. Enseignez les bonnes choses. Les femmes, il est important qu'elles enseignent aux jeunes femmes à être sobres. Il ne s'agit pas des parents. Il s'agit des femmes âgées et, de toute évidence, une femme âgée est quelqu'un qui a des enfants qui ont grandi et qui sont probablement grands-parents à ce stade, donc il ne s'agit pas d'enseigner à leur enfant de 5 ans, de 12 ans ou de 15 ans. Afin qu'elles enseignent aux jeunes filles à être sobres, à aimer leur mari et à aimer leurs enfants. L'enseignement ne s'arrête donc pas lorsque ces jeunes gens sont baptisés, se marient et ont des enfants. Non. En tant que femmes plus âgées, vous leur enseignez comment développer leurs enfants, comment les enseigner à leurs enfants. Ce cycle ne s'arrête jamais. J'aurais pu facilement intituler ce sermon, non pas « De la naissance au baptême », mais de la naissance à l'enterrement, parce que notre cycle ne s'arrête jamais, nous devons enseigner à ceux qui sont plus jeunes que nous, les aider à se construire pour être capables de vivre ce mode de vie. Aimer leurs enfants. Verset 5. Être discrète, chaste, maîtresse de maison, bonne, obéissante à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et plus loin dans ce récit, nous lisons la même chose à propos des jeunes hommes et des hommes âgés. Il nous est demandé d'enseigner, de développer, de soutenir les parents en les aidant à former des jeunes. Excusez-moi. Retournez à l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 4. Je vais appliquer celui-ci d'une manière légèrement différente, Ecclésiaste chapitre 4. En commençant par le verset 9 du chapitre 4, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont une bonne récompense pour leur travail. » Les couples. C'est pourquoi nous l'interprétons souvent, mais il n'est jamais question ici de « mari et femme ». Car s'il tombe, l'un relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul quand il tombe, car il n'a personne pour le relever. De même, si deux personnes se couchent ensemble, elles ont chaud. Comment l'un d'eux pourrait-il avoir chaud tout seul? Cela donne l'impression qu'il s'agit d'un couple, mais si vous faites du camping et qu'il fait froid, la paroi de l'oreiller n'est peut-être pas aussi épaisse. Si vous avez déjà été un jeune homme et que vous avez dû partager un lit avec un autre jeune homme ou que vous avez dormi chez quelqu'un, vous connaissez probablement le mur d'oreiller. Vous créez un mur d'oreiller parce que, en tant que jeunes hommes, La dernière chose que vous voulez, ou tout autre homme âgé, c'est que la chair de votre bras entre en contact avec la chair d'un autre, alors vous créez ce. Cela n'a rien à voir avec ce message, alors revenons au verset 12 de l'Ecclésiaste 4. Si un seul l'emporte sur lui, deux lui résistent, et une triple corde ne se rompt pas rapidement. Vous pouvez appliquer cela à un mari, une femme et des enfants, ou tout simplement à des êtres humains. Lorsque des personnes se tiennent dos à dos paragraphe 3, 4 ou 5 fois, elles sont plus fortes. On est plus résistant. On traverse des situations plus difficiles. Nous devons être aussi unifiés dans l'Église de Dieu. Qu'il s'agisse de parents, d'enfants, de personnes âgées, de têtes fatiguées, nous devons tous être liés de manière efficace. Nous sommes ici, alors revenez au Proverbe. Proverbe 27, probablement juste quelques pages en arrière pour vous. Proverbe 27 et verset 17. C'est quelque chose que nous devons faire, et nous pourrions le faire chaque sabbat. Proverbe 27, verset 17, le fer aiguise le fer. Ainsi l'homme aiguise le visage de son ami. Vous engagez-vous auprès des jeunes lors des cultes du sabbat? Est-ce que vous vous engagez avec eux lorsque vous vous asseyez pour un repas partage, que vous avez une conversation, que vous leur demandez ce qu'ils font? Jeunes gens, répondez-vous. C'est tout aussi important. On ne peut pas apprendre si l'on ne fait pas participer les autres. Nous disons souvent, sors, va t'asseoir avec les personnes plus âgées pour discuter. Et nous enseignons à un enfant plus jeune, concentre-toi sur leurs yeux. Nous lui disons, maintenant que tu parles à un adulte, tu dois avoir des yeux laser. Tes yeux se dirigent vers leurs yeux et c'est là-dessus que tu te concentres. Mais les jeunes, si vous êtes un adolescent, le font-ils avec les plus âgés? Mais si vous êtes plus âgé, faites-vous tout ce qui est en votre pouvoir pour engager le dialogue avec les plus jeunes? Posez-leur des questions sur leur vie, sachez ce qui se passe. Vous découvrirez peut-être qu'ils ont des centres d'intérêt similaires aux vôtres. Vous pourrez peut-être donner des conseils, et, jeunes gens, vous pourrez peut-être obtenir des conseils de quelqu'un qui a eu un parcours professionnel similaire, des expériences de vie, des moyens de vous améliorer, mais nous devons être proactifs et le faire. Nous devons impliquer les jeunes dans certaines parties de la congrégation, dans l'installation et le démontage. S'ils ont des talents dans le domaine de l'audio et de la vidéo ou dans d'autres domaines qui leur permettent de faire partie du groupe. Peu importe qu'il s'agisse d'une congrégation de 100 ou de 5 personnes, faites appel à tout le monde. Évidemment, il faut faire preuve de bon sens. On ne demande pas à un enfant de 10 ou 5 ans de déplacer les tables, mais il peut aider à les essuyer? Bien sûr. Peut-il aider à débarrasser une assiette? Oui. À mesure qu'ils grandissent, doivent-ils s'impliquer? Bien sûr. Travaillez avec votre ministre. Demandez-lui. Le ministère s'efforce de le faire. Nous le faisons ici au siège. Nous avons des jeunes qui aident à l'installation et au démontage. Certains d'entre eux passent l'aspirateur dans le hall, parce que tout le monde devrait être impliqué, se soutenant, se développant et se construisant mutuellement. Et si vous êtes âgé, n'oubliez pas les parents célibataires ou les autres parents qui ont besoin de votre soutien. Si vous avez un enfant, si vous avez vu un parent seul avec un tas d'enfants, je ne me soucie pas de savoir s'ils sont bons, et nous avons des parents merveilleux dans l'Église qui ont des familles nombreuses, des parents seuls, mais les enfants sont bien élevés. Cela ne veut pas dire que c'est facile pour eux, alors aidez-les, soutenez-les, et nous irons de mieux en mieux. Mais ce n'est pas seulement dans le service du sabbat, ou quand vous parlez, ou quand vous interagissez. Frères et sœurs, Pour en revenir à la première étape, vous pouvez soutenir ce que fait l'Église de Dieu de différentes manières. Pas seulement en aidant au développement d'un jeune dans une congrégation, mais en soutenant les programmes que nous produisons, et le moyen le plus direct de le faire est le CJA. Vous n'écrivez pas d'article pour un magazine. Vous ne donnez pas d'études bibliques pour les jeunes. Vous vous dites peut-être, mais je ne suis pas un campeur, mais vous pourriez être un bénévole. Vous pourriez vous porter volontaire pour aider au camp. Vous pourriez être à la cuisine où, il y a tant de choses à faire. S'il y a une possibilité de faire du bénévolat au camp, et qu'elle est libérée, ou en cours de libération, ou une fois qu'elle est ouverte à la recommandation, demandez à aider. Si vous êtes disponible, que pourrait-il arriver de pire? Non, nous n'avons pas besoin de votre aide. Nous avons tellement de volontaires cette année que nous en refusons certains. À la lumière de ce sermon, j'espère que j'entendrai de la part de l'administration de l'Église que nous avons beaucoup trop de bénévoles cette année, que nous avons dû en refuser un certain nombre, parce que c'est notre travail. C'est plus important que ce qui paye votre travail de 9h à 17h. Certains d'entre vous ne le peuvent pas. Vous avez un travail. Vous ne pouvez pas sortir pendant 2 semaines. Bien sûr, c'est compréhensible, mais faites du bénévolat. Portez-vous volontaire pour aider les jeunes. Faites du bénévolat pour soutenir le camp afin que nous puissions avoir un programme qui développe les enfants. Et cette année, nous sommes très enthousiastes, nous avons un camp, nous le rapprochons du quartier général pour que les enfants puissent venir passer une journée au quartier général et voir tout ce qui se passe ici pour que nous puissions rendre plus réel le mode de vie de Dieu. Il y a des informaticiens, des rédacteurs, des graphistes et des comptables. Il y a des emplois que l'on peut occuper dans l'œuvre de Dieu. Et nous avons des enfants qui ont été campeurs et des membres du personnel qui travaillent ici aujourd'hui, alors nous voulons rendre cela réel et les enthousiasmer. Nous nous efforçons également de faire en sorte que le plus grand nombre possible d'enfants du monde entier puissent venir dans l'Ohio pour participer à ce camp. Les années précédentes, à cause de Covid, nous avons dû étaler un peu plus le programme avec l'Afrique du Sud. Mais cette année, nous allons nous efforcer, autant que possible, de faire venir des enfants du monde entier parce que, d'une part, c'est bien qu'ils viennent de Namibie, d'Afrique du Sud, d'Australie ou des Philippines, mais c'est aussi bien que les enfants d'ici puissent voir « Oh là là, ce n'est pas normal d'avoir de l'électricité 24 heures sur 24. 365 jours par an. Ce n'est pas normal d'avoir le privilège et les avantages, surtout dans des pays comme l'Amérique, où l'on entre dans une épicerie et où l'on trouve 300 sortes de beurre de cacahuète. Même dans les pays riches. Ce n'est pas comme ici au Canada. Ce n'est même pas la même chose. Je me souviens avoir parlé avec une personne qui a déménagé ici il n'y a pas très longtemps, et l'une des choses qui l'a vraiment frappé, est la variété des produits dans l'épicerie. Elle a grandi dans le sud de l'Ontario, alors ce n'est pas comme si c'était dans la Cambrousse. Vous venez ici et la richesse est étonnante en Amérique, mais vous pouvez aussi vous y habituer parce que si vous avez été élevé dans ce milieu, c'est normal. C'est donc une bonne chose pour eux de voir d'autres parties du monde, mais, frères, nous ne pouvons pas le faire sans vous. Bénévolat et collecte de fonds. La collecte de fonds est très importante pour le camp. Il existe de nombreuses initiatives dont vous avez entendu parler. Le bulletin d'annonce en parle. Pensez aux enfants au-delà de votre congrégation. Si vous commencez à collecter des fonds pour le CJA et que ce campeur et votre congrégation ont soudain les moyens d'aller au camp, qu'ils ont un moyen de transport, qu'ils peuvent payer les frais de camp, ne vous laissez pas ralentir parce que chaque dollar que vous gagnez dans la collecte de fonds et qui va au CJA, c'est un autre enfant que vous envoyez au camp. et ce n'est pas donné de venir d'Australie, du Royaume-Uni ou d'Afrique du Sud. Ils font leur part en essayant de collecter des fonds, localement, dans leur région, mais vous et moi, et nous sommes dans des pays occidentaux où il y a beaucoup plus d'argent que dans certains de ces autres pays, c'est à nous de le faire. Nous devrions dépasser nos objectifs de collecte de fonds pour ces enfants. Nous devrions nous débarrasser de la nécessité ou de l'inquiétude de devoir penser, d'accord, nous ne pouvons pas nous permettre cet enfant, ou nous ne pouvons pas nous permettre celui-là à cause du vol ou du coup. Non, il faut faire en sorte que ce ne soit pas un problème. Nous ferons notre part, mais vous devez collecter des fonds importants et profonds. Puis, une fois que tous les enfants de votre congrégation iront au CJA, pensez à ceux des congrégations voisines ou à l'autre bout du monde. Prêtez attention au bulletin d'annonce. Chaque dollar fait la différence. Faites la différence pour les jeunes. C'est ce que vous pouvez faire, surtout si vous ne pouvez pas être bénévole. Alors, soutenez les programmes. Il nous reste un peu de temps. Maintenant que nous avons vu ces trois jambes, nous pouvons faire la différence, et la Bible en donne plusieurs exemples. Allez au 1 Samuel. Excusez-moi, je me remets dans le rhume. 1 Samuel, chapitre 1, et nous allons le parcourir. Voici quelqu'un qui sert d'exemple. Je pourrais l'appeler le succès grâce à Dieu ou à de bons parents. 1 Samuel, chapitre 17. Anna arrive, elle pleure. C'est vraiment difficile, elle est en larmes. Elle est tellement en larmes qu'elle bafouille presque, et Eli se dit, « Bon, qu'est-ce qui se passe avec cette femme ?» Au verset 17, en sautant vers le bas, il est dit, Eli répondit et dit. Après qu'elle se soit expliquée, et qu'elle ait dit, « Je voudrais bien avoir un enfant », et il a dit, « Va en paix, et le Dieu d'Israël exaucera la demande que tu lui as faite. » Verset 28 ou 27, « J'ai prié pour cet enfant, et le Seigneur m'a accordé la demande que je lui avais adressée. » Elle a dit que si elle avait un enfant, elle le donnerait à Samuel, elle le donnerait au temple, mais qu'elle lui donnerait, qu'elle la bénirait avec un enfant. Je l'ai donc prêté au Seigneur, car il est né plus tard. Verset 28, aussi longtemps qu'il vivra, on le prêtera au Seigneur et on l'adorera. Elle a renoncé à Samuel pour aller au temple. Elle était l'exemple, elle obéissait à Dieu. Elle voulait faire ce qu'il fallait. Regardons un autre exemple, revenons au Nouveau Testament. Nous l'avons vu plus tôt, mais nous le racontons à nouveau. 1 Timothée, ou 2 Timothée, excusez-moi. Chapitre 1 du 2 Timothée. Chapitre 1, verset 2. Nous commencerons au verset 2, à Timothée, mon fils bien-aimé, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous passons au verset 5. Quand je rappelle la foi sincère qui est en toi. Nous parlons de Timothée, il était jeune, il a grandi, qui a d'abord habité chez ta grand-mère Loïe. D'où vient donc l'amour sincère de Timothée, sa foi? De sa grand-mère Loïe, et de ta mère Eunice. La grand-mère a donc enseigné à sa mère à avoir une foi sincère, qui a ensuite enseigné à Timothée. Une bonne éducation fait la différence. En l'occurrence, des générations de bons parents. Passons au chapitre 3. Plus d'une page, probablement le chapitre 3 et le verset 14 de 2 Timothée. Toujours dans le 2 Timothée, chapitre 3, verset 14, « Mais continuez dans les choses que vous avez apprises et dont vous avez été assurés, sachant de qui vous les avez apprises. » Le ton est un peu différent. Bien sûr, nous devons obéir au gouvernement de Dieu et à la vérité, mais dans le contexte de Timothée, N'oublie pas de qui tu as appris cet amour sincère, Timothée, qui lui est dit en tant qu'adulte dans ce cas. Jeune homme, mais adulte. N'oublie pas de qui tu les as apprises. Dès l'enfance, tu as appris. Nous l'avons déjà lu, les saintes Écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans Christ Jésus. Il parle de la foi. Le contexte, les détails, le sujet, si vous voulez, n'ont pas changé. Il dit, Timothée, souviens-toi de ta mère. Souviens-toi de ta grand-mère. C'est de là que tu les as apprises. Et cet enseignement, cette éducation a fait de Timothée ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Vous ne pensez pas, jeunes gens, que vous pourriez vous tenir derrière un pupitre et faire un sermon? N'en soyez pas si sûrs. Vous ne seriez pas les premiers. Vous ne seriez pas les premiers à être élevés par des générations qui, potentiellement, s'orientent dans cette direction. Nous avons déjà examiné ce récit, mais voyons-le de l'autre côté. Allons au 1 Samuel, chapitre 3. Revenons au 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 3. Si vous vous souvenez bien, Samuel a été confié au temple. Il a été envoyé là-bas. C'est ce qu'il devait faire. Sa mère l'a laissé partir parce qu'elle voulait simplement pouvoir abandonner un enfant. Elle a donné l'exemple. Elle a respecté le vœu qu'elle avait fait à Dieu, mais soudain, il a fallu que quelqu'un d'autre prenne la relève, n'est-ce pas? 1 Samuel, chapitre 3, verset 10, le Seigneur vint, se présenta et appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, car ton serviteur entend. Samuel répondit, parle au nom de ton serviteur, entends. C'est donc, d'accord, réfléchissez à ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il en arrive là, parce que rappelez-vous, il a été donné comme un enfant et a dû travailler sous Eli, qui l'a développé et l'a préparé, et les autres dans le temple pour le former et l'enseigner. Ce sont donc d'autres personnes qui ont appris à Samuel à entendre Dieu, à le voir. Je suis sûr que sa mère lui rendait visite. Ce n'était pas comme s'il était rejeté, donc il y avait cet exemple. Il a grandi en sachant que sa mère obéissait à Dieu depuis sa naissance et depuis qu'il est sorti de l'hôpital. Pouvez-vous vous imaginer être un parent et dire, « Je vais abandonner mon enfant parce que c'est le vœu que j'ai fait à Dieu parce que Dieu m'a béni. » Verset 19, Samuel grandissait, et le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne tombait à terre. Il entendait toutes les choses que Dieu disait, et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, savait que Samuel avait été établi prophète du Seigneur. Pendant qu'Anne consacrait Samuel à Dieu, Eli, le grand prêtre, lui aurait enseigné tout ce qui se passait dans le tabernacle. Il l'aurait aidé à reconnaître comment entendre Dieu, comment voir Dieu, comment lui obéir. Ce serait une histoire de réussite où quelqu'un d'autre qu'un parent aurait aidé. Nous avons le temps pour une autre de ces histoires. Allons chez Esther. Nous n'y allons pas souvent. Le livre d'Esther, chapitre 2. Esther, chapitre 2, et nous ne lirons qu'un seul verset. Verset 7, il éleva Hadassa, c'est-à-dire Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère, et la jeune fille était belle et belle. Mardoché la prit pour sa fille, après la mort de son père et de sa mère. Il la recueillit parce que les parents sont morts. Cet oncle a dit, « Vous savez quoi? Je ne suis pas les parents. Je suis le sang. Je suis quelqu'un à soutenir. » Si cela ne s'était pas produit, serait-elle devenue ce qu'elle est devenue? Aurait-elle joué son rôle plus tard dans sa vie? Pensez à tout ce qu'elle a fait pour sauver Israël. Ses parents sont morts, mais son oncle l'a aidée à devenir ce qu'elle est devenue. Il n'y a pas que les parents. Encore une fois, ils sont les premiers à s'occuper des enfants, bien sûr, mais nous sommes tous responsables de la création de ces histoires de réussite pour les jeunes. Nous devons tous les aider à se construire et à se développer pour devenir ce qu'ils peuvent devenir. Vous pouvez regarder le récit de Ruth, pensez à tous. Et elle n'était pas jeune, c'était une personne plus jeune. Elle avait admiré quelqu'un de plus âgé, mais cet exemple l'a touchée et elle l'a transformée au fil du temps. Dans la Bible, on trouve de nombreux témoignages de parents ou de personnes de leur entourage qui aident les jeunes à devenir ce qu'ils sont. C'est important. C'est nous qui devons travailler ensemble pour permettre à quelqu'un, depuis sa naissance, d'apprendre les choses simples de la vie jusqu'au moment où il est prêt pour le baptême. Allons au chapitre 11 des Proverbes. Proverbe 11. Jeunes gens, ceci est important pour vous. Nous allons changer de vitesse et nous allons entendre un peu de votre responsabilité, mais Proverbe chapitre 11. Il y a une raison pour laquelle Dieu fait cela, non pas parce qu'il veut que ceux qui nous entourent se mêlent de l'éducation des enfants. Dieu ne dit pas, « Oh, cette personne devrait se mêler de l'éducation des autres » ou « cette personne devrait faire ceci » et se mêler des affaires des autres. Non, ce n'est pas pour cela que Dieu agit. Dieu dit, « Soutenons-nous les uns les autres à cause de cela. » Proverbe, chapitre 11, verset 14, « Là où il n'y a pas de conseil, le peuple échoue. Si nous nous lançons seuls, nous échouerons. La parentalité est trop grande, trop importante, mais dans la multitude des conseillers, pas un seul conseiller, il y a de la sécurité. Le but est établi, est-il dit ailleurs. Les jeunes bénéficient d'une multitude de conseillers ou d'influences dans leur vie. En tant que parent, vous allez être ce premier influenceur, et vous devez l'être. Nous devons être un exemple en tant que parents, mais nous avons tous la responsabilité d'aider les jeunes à atteindre le stade de leur vie où ils disent « Oui, je veux être baptisé ». Vous avez donc été tiré d'affaire pendant la plus grande partie du sermon, jeunes gens. Vous avez aussi une responsabilité, en plus de suivre ce que disent vos parents ou d'écouter les adultes, ou d'être capable d'appliquer les leçons que vous apprenez. Vous ne vivez pas dans une bulle, donc vous serez exercé à vivre ce mode de vie, mais dans certains cas, vous le faites parce que vous êtes sous le toit de vos parents et, dans ma maison, mes règles, et nous obéissons à Dieu dans cette maison. Et si vous voulez vivre dans cette maison, vous obéirez aussi à Dieu. C'est possible, mais plus nous rendons le christianisme réel pour nos enfants, plus les Proverbes 22, rappelez-vous, formez un enfant, et quand il sera grand, il ira à lui. Cela ne veut pas dire qu'ils vont atteindre l'âge de 19 ans et se faire baptiser. On ne peut pas forcer un enfant à être baptisé. Une dernière chose pour les parents. On ne peut pas le forcer. Pouvez-vous le désirer? Pouvez-vous susciter l'enthousiasme chez eux? Pouvez-vous faire tout ce qui est en votre pouvoir pour leur montrer ce mode de vie? Et même si vous le faites parfaitement, il se peut qu'ils ne soient pas baptisés. Ils peuvent grandir, vivre seuls et suivre leur propre mode de vie, mais vous savez ce que vous avez fait? Vous les formez, et quand ils vieillissent, ils n'oublient pas les choses que leurs parents leur ont enseignées. Je n'ai pas oublié les choses que mes parents m'ont apprises, et cela m'a rattrapé quand j'ai pris de l'âge et que je me suis dit, « Oh, oui, et il y a eu cela, et puis il y a eu cela. » Et puis, quand on a des enfants, on se dit, « Oh, oh là là !» En vieillissant, une vérité dérangeante s'impose dans notre vie. Vos parents ont plus raison que vous ne le pensez. C'est désagréable quand on est jeune et cela le devient de plus en plus avec l'âge, Mais vos parents avaient plus raison que vous ne le pensez. Alors, jeunes gens, vous en êtes arrivés là. Disons que vous avez obéi à Dieu. Vous atteignez un certain âge. Vous avez 19 ans, 20 ans, 21 ans, quelque part dans cette tranche d'âge. Nous avons un article sur qui dit maintenant que vous avez 20 ans, qui parle de « bon, vous devez prendre une décision et avancer dans votre vie, du baptême et d'autres choses. Vous devez le choisir. Vous devez regarder le christianisme, regarder vos parents, regarder les exemples autour de vous, regarder les personnes qui ont choisi de suivre ce mode de vie. Pas seulement tes parents, mais tous ceux qui t'entourent dans une congrégation ou que tu vois à la fête, qui sont un exemple, un mentor, qui t'ont prodigué des conseils, qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu. Ils ont choisi ce mode de vie, et vous devez le choisir aussi. On ne peut pas te forcer à te faire baptiser. Nous n'allons pas dire, d'accord, vous avez 20 ans, mettez-vous en maillot de bain et nous allons vous tenir sous l'eau et forcer l'Esprit de Dieu à entrer en vous. Non, ce n'est pas comme cela que cela marche. Vous faites une alliance entre vous et Dieu. Vos parents seraient-ils déçus si vous choisissiez de ne pas le faire? Bien sûr, parce qu'ils ont vécu leur vie et choisi ce mode de vie parce qu'ils ont vécu une vie en sachant que c'est la bonne façon de vivre. Alors, s'ils vous voient commettre une erreur, comme n'importe quelle erreur que vous feriez dans votre vie, seront-ils découragés? Vont-ils essayer de vous convaincre ou vont-ils travailler avec vous et vous aider à voir ce que... Oui, bien sûr. Ce sont tes parents. Ils veulent que tu prennes les bonnes décisions, mais c'est à toi de prendre la décision finale. Tu dois prendre cette décision toi-même. Tu dois comprendre ce que signifie le repentir. Ce que signifie abandonner et dire, « Vous savez, j'ai besoin de Dieu dans ma vie. J'ai besoin de cette direction. J'ai besoin de son aide, de ses conseils, de ses bénédictions et de toutes les choses qu'il me donnerait de faire pour que je sois prêt et que je puisse marcher avec confiance pour résister aux choses du monde que je rencontrerai. Car, encore une fois, il ne faut pas penser en termes de temps. Ne laissez jamais le temps changer la façon dont vous envisagez de vivre votre vie. Si vous êtes jeune, que vous avez 18 ou 19 ans, que vous envisagez d'aller à l'université ou de fonder une famille, rien de tout cela ne changera avec le retour du Christ. Si vous avez 19 ans, devinez quoi? Vous allez vivre dans le royaume. Pensez-vous que le fait de vieillir et de s'instruire change les choses? Je veux dire que les conditions changent, mais vous devez toujours, encore une fois, choisir de vivre ce mode de vie. Vous devez comprendre ce que signifie le baptême, entrer dans les détails de cet engagement parce que vous avez vu des gens hypocrites, qui se lèvent et s'en vont, qui disent qu'ils croient en quelque chose et qui le rejettent ensuite. Non, c'est à vous de prendre cette décision. Vous devez comprendre les doctrines fondamentales de Dieu. Vous devez comprendre ce qu'est la repentance. Vous devez vous engager dans ce mode de vie. Et ce n'est pas un mode de vie qui est difficile parce que vous avez passé toute votre vie à apprendre ce qu'est le christianisme. Est-il facile d'être chrétien? Non, parce que nous suivons un chemin différent. Est-il difficile d'être chrétien? Absolument pas. Dieu dit que nous recevons une vie abondante. Nous sommes bénis par des gens qui se soucient de nous et nous aiment. Vous ne trouverez jamais un groupe qui se soucie plus de vous que ceux qui vous entourent chaque sabbat, ou que ce soit dans le monde. Peu importe qui vous rencontrez, qui vous croisez, quel que soit le groupe ou l'équipe sportive ou les amis, personne ne se souciera de vous comme ceux qui vous entourent chaque sabbat, mais vous me croyez sur parole, n'est-ce pas? Parfois. Les gens se disent, non, Je ne suis pas prêt à être baptisé, puis ils prennent la décision et la prennent à leurs dépens. Et apprennent que le chemin peut être difficile sans Dieu. Sans ses bénédictions, sa protection, ses conseils. Et en tant que bons parents, nous ne devrions pas leur mettre le nez dedans, mais nous devrions leur rappeler pourquoi vous avez choisi de vivre ce mode de vie. Pourquoi vous avez décidé que, non, je ne suis pas. Je prends un autre chemin. Et rappelez-vous, nous avons formé un enfant pour qu'il y revienne quand il sera plus âgé. Actes, chapitre 2. Quelques bases ici. Actes, chapitre 2. Un seul verset, nous lirons le verset 38. Actes 2, 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. » Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Jeunes gens, futurs membres, vous avez aussi l'Esprit de Dieu qui travaille avec vous. Peu importe que vous ayez 2 ou 20 ans et que vous vous prépariez au baptême. L'Esprit de Dieu peut vous aider, vous diriger, vous guider, mais vous ne pouvez pas faire les choses que les personnes converties peuvent faire avec l'Esprit de Dieu dans leur esprit, en recevant le Saint-Esprit, en interagissant avec l'Esprit dans l'homme. Vous ne pouvez pas émettre les pensées que l'Esprit de Dieu nous permet d'émettre lorsque nous sommes baptisés. Il y a une différence entre le pouvoir autour de vous et le pouvoir en vous. Si vous ne me croyez pas, entrez dans une pièce où il y a de l'électricité. Vous avez du pouvoir tout autour de vous. Prenez une fourchette, plantez-la dans une prise de courant, vous aurez du pouvoir en vous. C'est très différent. L'Esprit de Dieu en vous est très différent de l'Esprit de Dieu autour de vous. Il peut vous aider, mais vous ne pouvez pas vraiment changer tant que cet Esprit n'ouvre pas votre cœur et ne vous permet pas de le faire. Romains chapitre 15. Je vais commencer à conclure ici. Chapitre 14. Excusez-moi. Romains 14 et verset 5. Un seul verset. Romains 14 et verset 5. L'un estime un jour plus qu'un autre, l'autre tous les jours de la même manière. Un autre estime tous les jours pareil. Que chacun soit pleinement convaincu dans son esprit. Frères et sœurs, nous pouvons vous persuader, mais ceux qui sont convaincus contre leur gré sont toujours du même avis. Vous choisissez de suivre ce mode de vie. Lorsque vous dites « Je veux être baptisé », vos parents sont bien sûr enthousiastes. Je me souviens que lorsque Dieu m'a appelé, ma mère a été très surprise. Je n'étais pas celle que Dieu allait appeler. Il n'y avait aucune chance. Je n'étais pas intéressé. Elle a été époustouflée. Elle était tellement excitée. Vos parents seront donc enthousiastes. Mais vous devez être persuadé par la parole de Dieu, par les conseils d'autres personnes, par votre pasteur. Tous ces éléments se conjuguent, mais c'est surtout dans votre propre esprit que vous devez prendre la décision. C'est vous qui prenez la décision. Vous dites, « Oui, j'ai vu l'exemple. J'ai vécu. J'ai été le sommet de ce tabouret à trois pieds pendant des années maintenant. » Et je veux être l'un des pieds de ce tabouret. Je veux soutenir le travail. Je veux être celle qui aide les enfants à se rendre au camp. Je veux être celui qui met en œuvre tous les aspects du christianisme pour aider la prochaine génération, mais, encore une fois, il faut choisir. Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, verset 12. Philippiens 2:12. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais bien plus encore en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui agit en vous pour vouloir et pour faire ce qui lui plaît. Dieu peut vous donner à la fois la volonté, le désir de faire le bien, et ensuite le pouvoir de le faire. Mais nous devons tous travailler à notre propre baptême parce que, Encore une fois, c'est un engagement personnel et un choix entre vous et votre Créateur. C'est un choix personnel. Ce n'est pas une tradition familiale. En vieillissant, vous serez confronté à ce choix. Lorsque vous atteindrez l'âge de 20 ans, le pasteur vous dira peut-être, qu'avez-vous l'intention de faire de votre vie? Mais ce n'est pas à ce moment-là que votre cheminement vers le baptême a commencé. Il a commencé parce que tu as eu de nombreux guides tout au long de ta vie, qui t'ont aidé à trouver le bon chemin. Vous pouvez considérer les personnes qui vous entourent comme une boussole. Elles ne peuvent pas nécessairement vous imposer un chemin. Les parents peuvent vous obliger à faire certaines choses dans leur maison, bien sûr. Les parents peuvent vous obliger à faire certaines choses dans leur maison, bien sûr, comme braquer une banque et aller en prison, mais les gens qui vous entourent sont comme la flèche et la boussole. Ils t'aident simplement à t'orienter dans la bonne direction, à savoir où aller. C'est toi qui dois faire la randonnée, le voyage, le chemin, les étapes, mais ils t'aideront. Frères et sœurs, Dieu nous a confié à tous le soin de soutenir sa jeunesse. Pas seulement les parents, mais tous les baptisés et les non-baptisés, et tous les membres, parce que c'est une responsabilité chrétienne d'aider à construire la prochaine génération. Les Proverbes 22, comme nous l'avons vu, « Je n'ai pas besoin d'y revenir », disent, « Former un enfant dans la voie qu'il doit suivre ». Nous avons tous vu, je pense, qu'à ce stade, nous sommes tous responsables de cela. Chacun d'entre nous contribue à la formation de ses enfants. Il faut que l'Église tout entière s'y mette. Que ce soit au sein de votre congrégation, en faisant du bénévolat ou en apportant votre soutien financier pour aider le camp, tous ces éléments se conjuguent pour nous permettre de construire la prochaine génération, alors soyez un exemple. Soyez quelqu'un qui inspire ceux qui vous entourent. Soyez quelqu'un que les jeunes autour de vous peuvent admirer. Soyez une lumière pour la prochaine génération et soutenez-la de la naissance au baptême.